Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Elle a vendu des millions d'exemplaires de ses albums dans les années 2000 avant de multiplier les rôles dans des séries et des films pour la télévision. Mais en parallèle de sa carrière artistique, la chanteuse et comédienne Laurie Pester a pendant longtemps souffert d'endométriose, une maladie qui touche une femme sur 10 en France et qui lui provoquait d'intenses douleurs au point qu'elle a décidé de se faire retirer l'utérus en 2021. À 41 ans, Laurie raconte ce long combat dans un livre intitulé « Revivre », sorti à la fin du mois de mars, et elle a accepté de revenir sur son parcours dans Code Source au micro d'Ambre Rosala.
Laurie s'appelle en réalité Laure Pester. Elle est née le 2 mai 1982 au Plessis-Bouchard, dans le Val d'Oise. Elle est fille unique, son père est régisseur dans une radio et sa mère est chef comptable. C'est une enfant très dynamique et très sportive, passionnée de patinage artistique.
J'étais une boule d'énergie. Je commence le patinage, j'ai 6 ans, mais ça fait quand même déjà un an que je tanne mes parents pour qu'ils m'inscrivent. Sauf que bah, le médecin avait dit à mes parents, à 5 ans, c'est quand même un peu jeune, le corps, il n'a pas fini d'être vraiment... La colonne vertébrale, c'est pas vraiment solidé, tout ça. Donc, tous les matins, mes parents, « Maman, tu m'emmènes à la patinoire, maman, tu m'emmènes à la patinoire. » Et donc, à 6 ans, elle a dit, « Ok, bon, c'est bon, on peut. » Donc, elle m'a inscrite et elle ne savait pas qu'elle allait en avoir pour 10 ans.
Au collège, puis au lycée, Laurie s'inscrit en section sport-études pour pouvoir s'entraîner sérieusement au patinage. Elle remporte de nombreuses médailles et rêve de devenir championne olympique. Mais à force d'entraînement, elle se blesse au genou quand elle a 15 ans.
La jambe droite, c'est ma jambe de réception, donc elle prend pas mal de chocs. Je me suis fracturé le ménisque à quelques mois des championnats de France. Le drame. Très dur, surtout que moi je suis un peu têtue, donc je me fais opérer. Le chirurgien me dit qu'il faut attendre 6 à 8 mois avec rééducation. Évidemment, au bout d'un mois, je me dis, après l'opération, je me dis « Ah, c'est cool, j'ai pas trop mal. » Les championnats de France, c'est dans à peu près un mois et tout. Peut-être que si je reprends l'entraînement maintenant, je pourrais peut-être les faire. Sauf que bah, mon genou était trop fragile. Et donc je me le suis recassé, donc réopération. Et là, le chirurgien m'a un peu secoué en disant « Écoute, j'ai l'impression que t'as un bon caractère, toi, t'es un peu têtu. Je vais t'expliquer, ton genou, c'est quand même ton corps. Si tu fais n'importe quoi, tu pourras plus rien faire. Donc, prends-en soin. » Voilà, et donc après, j'ai attendu 6 à 8 mois avec rééducation. J'ai repris l'entraînement doucement, sauf que là, après, c'était plutôt dans la tête que ça se passait. C'est-à-dire que j'avais peur. J'avais peur de avoir cette douleur, j'avais peur de sauter. Donc bon, bah, quand tu doutes avant un saut, c'est sûr que tu vas le terminer sur les fesses. Et à un moment donné, bah, il fallait bien que je voie la vérité en face.
Laurie prend alors la décision d'arrêter le patinage artistique. À ce moment-là, et alors qu'elle se remet encore de sa blessure au genou, elle décide de devenir chanteuse.
Quand je me suis dit ok, je vais arrêter le patinage, je me suis posé la question de qu'est-ce que j'aimais en fait dans ce sport. Pourquoi je vibrais pour ça et je vivais que pour ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais donner de la magie aux gens. J'aimais danser avec des petites tuniques à paillettes, sur une musique sympa et sur une lame de 1,5 cm, sur de la glace et faire croire aux gens que c'est super facile. Et alors qu'en fait, on a les pieds en sang et des hématomes partout et qu'on a mal partout. Mais voilà, c'était vraiment donner du spectacle aux gens, donner de la magie aux gens. Donc, je prends des cours de chant, des cours de danse et je commence à passer des castings. Alors, il y a des choses pour lesquelles j'ai été prise. J'avais fait choriste et danseuse pour une émission pour France 2. J'ai fait un spectacle pour enfants aussi qui s'appelait la Baby Boom Dance. J'avais 16 ans, on a fait 6 fois le Zénith. C'était la première fois que je faisais le Zénith, j'étais pas du tout connue et c'était à 16 ans, j'étais en stress total. Et puis il y a d'autres choses où j'ai pas été prise et voilà quoi, c'est normal, c'est le jeu du casting.
En passant des castings pour devenir choriste et danseuse, Laurie rencontre un producteur. Ensemble, ils enregistrent un single, Près de moi, qui sort le 2 mai 2001, le jour des 19 ans de la chanteuse. La chanson est un énorme succès et grimpe à la deuxième place des titres les plus écoutés en France à ce moment-là. Parfois, j'aimerais qu'ils me prennent dans ses bras. Son album « Près de toi » sort 6 mois plus tard. Il dépasse le 1 million d'exemplaires vendus et en très peu de temps, Laurie commence à être reconnue dans la rue. Un jour, elle veut aller faire du shopping avec des amis dans le centre de Paris quand elle est reconnue par une foule de personnes.
Il y en a une qui voulait aller faire du shopping au Halles. Bon, c'était peut-être pas le meilleur endroit, mais elle voulait un magasin bien particulier. Et donc, on va là-bas et hélas, il y a trop de monde, quoi, en fait, qui commence à me reconnaître. Et ça commence à être dangereux. Et donc, il y a un vigile d'un magasin qui nous fait rentrer dans le magasin, qui ferme les portes du magasin. Et c'était devenu... En fait, je ne m'étais pas rendu compte du tout de ça, quoi. Pour moi, j'allais faire du shopping avec mes copines, tranquille. Je le savoure, mais en même temps, j'essaye de toujours avoir une longueur d'avance. C'est-à-dire, on commence à bosser sur d'autres chansons, et puis sur le tournage du clip. Parce qu'en même temps, on se dit, ok, bon, bah là, c'est super, ça marche, mais attention, demain, tout peut s'arrêter aussi. Donc oui, j'en profite un max, et en même temps, je fais tout pour pas que ça s'arrête.
Entre 2002 et 2008, Laurie sort 4 nouveaux albums, tous certifiés de disque d'or ou de platine. Elle tourne des dizaines de clips, part en tournée 4 fois et réunit en tout 2 millions de spectateurs. À la fin de sa dernière tournée, en décembre 2008, Laurie décide de faire une pause musicale pour se consacrer à la comédie. Pour son premier rôle, Laurie incarne une patineuse dans le téléfilm de TF1 diffusé en 2008, De feu et de glace, un rôle spécialement écrit pour elle. Elle tourne ensuite dans d'autres téléfilms, dans des séries et des films au cinéma. Alors qu'elle poursuit sa carrière de comédienne et de chanteuse, sur le plan personnel, Laurie décide d'arrêter de prendre la pilule. Elle a une 30aine d'années et elle entend dire que cette contraception présenterait des risques pour la santé.
Je décide de plus prendre la pilule, parce que, non pas parce que je voulais avoir des enfants, mais parce qu'on entendait plein de choses à ce moment-là sur la pilule. Et donc je me suis dit, mais attends... Moi aussi, je la prends depuis que je suis ado et tout. Donc, je décide de plus la prendre. Et là, donc, mes cycles deviennent de plus en plus abondants. Et les douleurs, au fur et à mesure, deviennent de plus en plus fortes. Sur le coup, je ne m'en rends pas compte. Parce que c'est un petit peu chaque mois. Un petit peu. Jusqu'au jour où, un matin, je ne peux plus me lever de mon lit. Nous, on nous a toujours dit que c'était normal d'avoir mal pendant ses règles. Et puis moi, je m'étais dit, ok, bon, bah, c'est normal. Et il y a des femmes qui ont un peu moins mal, qui ont pas mal du tout. Et il y a des femmes qui ont très, très, très mal. Bon, bah, moi, manque de bol, je fais partie des femmes qui ont très, très, très mal. Pour moi, c'était ça. Donc, je ne m'inquiétais pas du tout.
En 2015, quand elle a 33 ans, Laurie apprend qu'elle fait une grossesse extra-utérine, c'est-à-dire que l'embryon se développe en dehors de l'utérus. Son médecin lui prescrit un traitement pour interrompre la grossesse et lui conseille de rester chez elle pendant quelques jours pour se reposer.
Et au bout du, deuxième ou troisième jour, je commence à avoir des douleurs de dingue. Des douleurs à en tomber dans les pommes. Je perds connaissance une première fois. Et puis je perds connaissance une deuxième fois. Et là, je dis, ouais, quand même, j'ai vraiment super mal. Et le fait de perdre connaissance, il m'en a pas vraiment parlé. Enfin, il m'a pas parlé de douleur, en tout cas. Donc, je l'appelle et je lui dis ce qui se passe. Et il me dit, tu viens me voir tout de suite. J'arrive dans son cabinet, il m'ausculte et j'étais en train de faire une hémorragie. Il me dit, bah, tu vas à la clinique, là, au bout de la rue, je t'opère dans 2 heures. Il m'opère, tout se passe très bien. Et il me dit, ok, bon, bah, c'est tout bon. Enfin, voilà, on a tout nettoyé, tout ce qu'il fallait. Par contre, j'ai vu que tu avais de l'endométriose. Je me dis, ah, bah, c'était ça, en fait, finalement, c'était pas normal. Et d'un autre côté, maladie gynécologique, maladie chronique qui ne se soigne pas, qui peut poser des problèmes pour avoir des enfants, tout ça. Et là, tu fais « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait ?»
L'endométriose est une maladie inflammatoire incurable qui touche près de 10% des femmes. Pour comprendre, chaque mois, l'endomètre, la muqueuse qui recouvre la partie intérieure de l'utérus, se désagrège et est évacuée naturellement, ce qui donne les règles. Mais chez une femme atteinte d'endométriose, cette muqueuse se développe aussi en dehors de l'utérus, ce qui crée des lésions et provoque de vives douleurs. Pour Laurie, ces douleurs ont lieu avant, pendant et après ses règles. Il y a peut-être une petite semaine dans le mois où elle est tranquille, mais le reste du temps, elle doit vivre avec et prendre des antidouleurs quasi quotidiennement.
J'étais obligée d'adapter mon planning, ma vie, en fonction de cette maladie, en fonction des douleurs. C'est une douleur permanente, en tout cas pour moi c'était ça. C'était une douleur tout le temps, du matin jusqu'au soir, pour tout ce que je faisais. Je restais trop longtemps assise, j'avais mal. Je restais trop longtemps debout, j'avais mal. J'allais aux toilettes, j'avais mal. Pendant les rapports, j'avais mal. Quand je chantais, on utilise le ventre, j'avais mal. J'avais mal tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, j'étais épuisée. Si, à un moment donné, j'avais plus de cachet, il fallait que j'en mette partout. Et j'en mettais dans mon sac, dans mes poches de manteau, dans la cuisine, dans la salle de bain, dans la chambre. C'était quelque chose qu'il fallait que j'aie tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Parfois, quand la maladie s'est trop propagée, une opération est possible pour retirer du corps les muqueuses qui se sont développées en dehors de l'utérus. En 2016, Laurie se rend donc chez le radiologue pour passer une IRM et voir où en est son endométriose.
Il me parle mal, il me prend de haut, il était hautain et puis il me dit « Oui, enfin ça va, cette maladie à la mode là, vous en avez un peu mais vous allez pouvoir vivre avec vos petites douleurs. » Oh, mais d'une violence. Alors déjà, cette maladie à la mode qui m'explique, hein, je pense qu'il y a d'autres moyens pour être à la mode que d'être malade. Et puis en fait, en plus, il avait complètement faux, parce que quand j'ai envoyé les images au professeur, moi, qui me suit, il m'appelle, il me dit « Mais en fait, il faut vous opérer d'urgence. »
Laurie se fait opérer, mais son endométriose finit par réapparaître et ses douleurs persistent. L'année d'après, en 2017, elle rejoint le casting de la série télévisée à succès « Demain nous appartient » sur TF1. Elle préfère ne pas parler de sa maladie au travail, de peur que ça lui porte préjudice.
Sur les plateaux de tournage, parfois je perdais connaissance. J'essayais de ne pas le dire et de ne pas le montrer, mais parfois bon, les cachets, les antidouleurs, ça ne faisait plus rien. Et puis, j'étais tellement là à essayer de surmonter ça et de faire semblant qu'à un moment donné, le corps, il dit non, stop. Blackout et perte de connaissance. Plusieurs fois, j'ai fait des rendez-vous. Par exemple, un rendez-vous avec un réalisateur qui cherche une comédienne pour un rôle. Il faut une fille pétillante, avec pleine d'énergie et tout. Ce que je pense être en temps normal. Mais là, j'avais tellement mal pendant le rendez-vous que j'étais là sans être là. Il me posait des questions, je répondais à côté de la plaque. J'avais de tension. Enfin, j'étais vraiment... c'était pas ça. Donc évidemment, il m'a jamais rappelé, j'ai pas eu le rôle. Mais alors que j'aurais pu vraiment... C'était pour moi.
Laurie rencontre son compagnon, Yann, en 2018. Il décide d'avoir un enfant. Mais l'endométriose est une maladie qui complique la grossesse et elle n'arrive pas à tomber enceinte. Elle entame alors un long parcours de PMA, de procréation médicalement assistée, et elle tombe finalement enceinte au début de l'année 2020. Pendant ces mois de grossesse, son cycle menstruel est bien sûr mis en pause et elle n'a plus aucune douleur. Sa fille, Nina, naît au mois d'août. Quelques semaines plus tard, ses règles et donc ses douleurs réapparaissent.
C'est revenu assez rapidement, mais je pensais pas que ça allait revenir plus fort, pire qu'avant. Des douleurs à plus pouvoir, j'étais épuisée en fait. Je pouvais plus, je pouvais même pas la porter. Avec 4 mois, elle pesait pas grand chose. Je pouvais pas jouer avec elle par terre, je pouvais plus rien faire en fait. Le déclic, c'est mon chéri en fait qui me dit « Mais regarde comment t'es. Tu peux plus continuer comme ça, tu peux pas vivre comme ça. C'est pas possible. » Et puis ma fille aussi, le déclic, c'est ça aussi, de se dire « Mais je peux pas profiter pleinement des moments avec elle. Donc il faut que je fasse vite quelque chose. »
Laurie prend rendez-vous avec le professeur qui la suit. Elle fait une nouvelle IRM et son médecin lui annonce qu'en plus de l'endométriose, elle souffre aussi d'adénomyose. C'est un peu comme de l'endométriose, sauf que les tissus de l'endomètre se développent à l'intérieur même du muscle de l'utérus. Son médecin lui explique qu'il y a peut-être une solution pour calmer ses douleurs, l'hystérectomie, une opération pour lui retirer l'utérus.
Je fais ok, sauf que hystérectomie veut dire plus d'enfants. Ça a été un choix très difficile. Le cheminement, il est long. Pour prendre cette décision, ça a été compliqué. Je faisais un pas en avant, deux pas en arrière. Un jour, j'ai tellement mal, ok, je me fais opérer. Le lendemain, où j'ai un petit peu moins mal, mais que j'ai quand même mal, mais un peu moins mal, je fais « Oh non, en fait, ça va. » Et vraiment compliqué à prendre cette décision. Et puis, je comprends pas pourquoi je bloque à ce point-là.
Après plusieurs mois de réflexion, Laurie prévient son médecin qu'elle accepte finalement de se faire opérer.
Quand il m'appelle pour me donner la date de l'opération, je raccroche, je fais une crise de panique. J'avais jamais fait ça de ma vie. Je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je tremblais, je pleurais, j'arrivais plus à respirer. Et je me dis, mais il y a vraiment un truc bizarre, en fait, parce que l'opération en elle-même, c'est pas ça qui me fait peur. Je crois que c'était ma 13e. Je connais, c'est pas ça. L'équipe, j'ai entièrement confiance, c'est pas ça. On en a discuté avec mon compagnon, on veut plus avoir d'enfants. Ça, ok, ça c'était... On était sûrs de nous. Et donc je me dis, mais il y a quelque chose qui bloque, je sais pas quoi. Et donc j'appelle une amie qui est psy. Et là, je la vois. Et pendant cette séance, en fait, je me rends compte que mon inconscient avait associé mon utérus à ma fille. Et que donc, si on allait m'enlever mon utérus, on allait m'enlever ma fille. Et donc là, le travail à faire, c'était vraiment de dissocier les deux et de se dire, ok, c'est pas parce qu'on va t'enlever ton utérus qu'on va t'enlever ta fille. Enfin, il va se passer un truc avec ta fille. Donc voilà, il a fallu travailler là-dessus. Et cette séance m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée, même si... Sur la table d'opération, juste avant que l'anesthésiste m'injecte le produit, quand il me dit « bon, allez, on y va », là, j'ai des larmes qui se remettent à couler. Je lui dis « allez, allez, dépêchez-vous de m'endormir, dépêchez-vous que ça se termine. J'en peux plus, en fait, de cette décision. »
Laurie se fait opérer le 20 avril 2021. Au réveil, elle se sent d'abord soulagée.
D'un côté soulagée et d'un autre côté un peu nostalgique. Je me dis, bon, ça y est, c'est fait. Et je commence dans ma tête à faire plein de listes. Où je commence à faire la liste et dire, ok, ça y est, c'est fait. Bah, je pourrais plus me cacher dans les toilettes avec un test de grossesse. Je pourrais plus réfléchir à comment je veux l'annoncer à mon compagnon. Je pourrais plus toucher mon ventre, mon gros ventre et parler à ma fille. Et la sentir bouger, voilà, c'est... On fait le deuil de pas mal de choses, quand même.
Et comment ça va aujourd'hui ?
Depuis, c'est le jour et la nuit. Je revis, je regrette pas du tout, en fait, aujourd'hui, avec du recul, parce que j'ai plus de douleur, je revis. Ouais, je redécouvre une vie normale, en fait, sans douleur.
Ambre, la première fois que Laurie a témoigné de son endométriose, c'était en 2018. Est-ce qu'elle a le sentiment qu'on en parle de plus en plus aujourd'hui ?
Oui, complètement. Elle trouve qu'on en parle de plus en plus depuis quelques années et que c'est très bien. Maintenant, elle pense aussi qu'il y a encore du travail à faire. Elle trouve qu'on devrait mieux former le personnel médical, par exemple, et aussi qu'on devrait peut-être informer les jeunes filles dans les collèges à propos de cette maladie et qu'on leur dise que ce n'est pas normal d'avoir mal pendant les règles.
J'ai parlé au début de ce podcast de son livre « Revivre », paru fin mars aux éditions Robert Laffont, mais elle a aussi sorti un album quelques mois plus tôt.
Oui, elle a sorti un mini-album en janvier qui s'appelle « Hyper Laurie volume 1 », dans lequel elle reprend certains de ses anciens tubes en duo avec d'autres artistes. On retrouve par exemple le chanteur Bilal Hassani. Et un deuxième volume avec d'autres reprises doit sortir dans le courant de l'année.
Merci Ambre Rosala, Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-nous des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Barbara Gouy. Réalisation, Pierre Chaffanjon. Ne ratez pas les deux autres podcasts du Parisien. Crime Story, une affaire criminelle racontée chaque samedi avec Claudia Prolongeau et Damien Delseny. Et le mercredi, dans Le Sacre, un ou une médaillée d'or, olympique ou paralympique, se confie au micro de la journaliste Anne-Laure Bonnet.